Bonjour à tous, aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho, on vous emmène en voyage au coin de la rue.
Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
C'est le dernier jour de notre série consacrée à l'économie du voyage. Cette semaine, nous avons assisté à l'invention du tourisme aux côtés des aristocrates anglais. Nous avons parlé de la concurrence des plages européennes, concurrence accrue par la crise sanitaire et des turbulences de l'industrie touristique. Dans ce quatrième épisode, c'est une autre forme de voyage qui va nous intéresser, plus local, plus respectueux de l'environnement et des habitants. Un voyage placé sous le signe de l'échange et de la rencontre. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons imaginer les vacances de demain en compagnie de Bernard Chéhoux, maître de conférence à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Perpignan via Domitia, en compagnie également de Prosper Vanner, fondateur de la société coopérative Les Oiseaux de Passage, une plateforme numérique de voyage qui privilégie l'échange et la rencontre avec les habitants. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et d'abord, revenons un demi-siècle en arrière, lorsque les États-Unis cherchaient à attirer les touristes européens.
Le gouvernement fédéral américain a invité dernièrement 500 agents européens de tourisme. But de l'opération, montrer à ces agents les grandes richesses touristiques des États-Unis et les gros efforts de coordination réalisés entre l'hôtellerie, les restaurants et les compagnies aériennes pour les rendre accessibles aux bourses européennes. Premier arrêt à Washington, où le vice-président des États-Unis, M. Hubert Humphrey, adresse ses souhaits de bienvenue. Le beau voyage se termine à New York. New York, prodigieuse agglomération, triomphe de la verticalité et de la perspective. Les Américains évaluent à 20 millions le nombre d'Européens qui peuvent, dans un proche avenir, se payer un voyage touristique aux États-Unis.
Une archive de la télévision française du 4 mars 1967. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de touristes dans le monde. On peut s'en réjouir tout en déplorant les dégâts associés au tourisme de masse, Bernard Chéhoux.
Effectivement, oui. Mais ce que j'ai envie de retenir, moi, de l'extrait que vous avez choisi, c'est que le touriste, il est vu principalement comme un porte-monnaie ambulant. Là, c'est très clair dans le reportage. Beaucoup plus que... En fait, il faut en capter les dépenses. Il est souvent question de valeurs positives qui sont véhiculées par le tourisme, qui peuvent découler de la rencontre de l'autre, hein, de la richesse sociale, de l'ouverture interculturelle. C'est des choses qui sont mises en avant par les institutions étatiques ou internationales, surtout quand il s'agit de défendre le secteur du tourisme, quand il est attaqué. Mais on voit bien qu'en fait, ce qui est prioritaire, ce qui est premier, ce qui intéresse ces acteurs étatiques ou les opérateurs... C'est la dimension économique. C'est ce que j'aurais envie de retenir de cet extrait.
Cette dimension économique, ou peut-être exclusivement économique, c'est également ce que vous déplorez, première, oui. Prosper Vanner, dans le tourisme tel qu'il existe aujourd'hui.
Mais disons que nous, les catégories qui ont été inventées, les standards qui ont été inventés après la Deuxième Guerre mondiale et ceux qui ont été inventés dans l'extrait que vous dites, c'est-à-dire les systèmes de calcul des tarifs, de distribution, oui, sont tous tournés vers la logique du gain, donc de consommation, et même juste à distinguer dans les statistiques ou dans les visas les deux types de voyageurs, c'est-à-dire ceux qui viennent voyager pour consommer, mais qui puissent être là pour une foire, qu'ils soient pèlerins ou qu'ils soient en vacances, de tous les autres qui peuvent être amenés à voyager, qui voyagent pour le travail, pour étudier, pour trouver un refuge ou pour s'installer quelque part. Et on a une distinction derrière qui s'est faite entre ces deux types de voyageurs. Et derrière, ça inclut tout un système qui s'est traduit, lui, en termes de visas, de règles, de politiques tarifaires. Et il y a donc vraiment, oui, une distinction qui est faite autour de la consommation. Et pour nous, aujourd'hui, ça pose problème par rapport aux enjeux sur lesquels on est de changement climatique, avec notamment... Voilà, des migrations aussi qui augmentent, etc. Donc on est obligé de réinventer ce système et même peut-être d'aller au-delà de ces catégories standards et systèmes de distribution et de calcul des tarifs.
Réinventer un système qui, effectivement, engendre un certain nombre de nuisances. On peut parler des dégâts environnementaux, Bernard Chéhoux, c'est peut-être les plus évidents, et notamment la quantité de déchets produites par les touristes, des déchets dont une bonne partie finit tout simplement dans la mer.
Oui. C'est le cas. Il y a des exemples qui sont documentés. Hein. dans les Maldives, des îles qui sont constituées uniquement de déchets qui proviennent de l'activité touristique, avec des dégâts sociaux et environnementaux importants sur les populations à proximité et qui se diffusent dans la mer et donc dans le monde entier. Donc on peut parler de la croisière, les exemples sont multiples.
Des dégâts environnementaux auxquels s'ajoutent effectivement, comme vous le disiez, des dégâts sociaux, le fait que le tourisme peut entraîner une hausse du coût de la vie au niveau local et ce qu'on dit et ce qu'on peut entendre souvent, c'est qu'il entraîne lorsqu'il est mal régulé un dérèglement des sociétés qui sont confrontées soudain à un afflux de voyageurs. Bernard Chéou.
Oui, effectivement, donc des impacts sociaux qui peuvent être positifs ou négatifs. Donc il faut pas dire qu'ils sont forcément négatifs. Hein. Il y a aussi des impacts sociaux positifs. Donc dans des cas particuliers, hein, si on s'intéresse au tourisme équitable et solidaire, on peut voir que il peut y avoir une fierté dans certaines communauté de recevoir des touristes et qui leur permet de se projeter dans une activité, dans d'autres choses, donc il peut y avoir aussi des effets positifs. Et c'est vrai que on a des effets négatifs sociaux qui peuvent qu'on va pouvoir constater sur le type d'emploi, sur à différents niveaux, sur les faibles revenus qui peuvent être retirés de l'activité touristique par ceux qui sont en bout de chaîne, ceux qui sont tout au bout de la chaîne, qui ne maîtrisent pas les flux économiques.
Prosper Vaner, sur les effets négatifs de ce tourisme de masse.
Je peux donner un exemple, moi étant à Venise, entre c'est le tourisme, on va dire, qui a fortement aidé cette ville à sortir de sa crise industrielle en déployant, en finançant des services publics, un service de transport qui fonctionne toute la nuit. Mais aujourd'hui, et comme dans beaucoup de villes, l'hospitalité touristique devient la seule hospitalité possible. Et donc, si vous venez pour la ville pour consommer, ça, c'est tout à fait faisable. Mais si vous venez, c'est une capitale de région hein, dont on parle. Si vous venez pour des raisons administratives, pour ne serait-ce qu'aller à l'hôpital, pour voir des amis, etc. Là, vous vous retrouvez dans une forme d'hospitalité qui est purement marchande. Et pour vous donner un exemple, j'ai fait une balade pour le Conseil de l'Europe en novembre sur les autres formes d'hospitalité à Venise. Et sur les 60 000 chambres, on a trouvé moins de 1 000 chambres qui sont ouvertes, par exemple, pour des gens qui doivent aller à l'hôpital, accompagner des gens qui sont hospitalisés, des gens qui doivent se rendre à un procès ou tout bêtement, si des parents veulent organiser une compétition sportive dans leur ville et inviter d'autres villes à venir, et ben les gens se retrouvent tout de suite dans une hospitalité qui est touristique avec des tarifs ici qui peuvent grimper très vite. Donc on voit qu'au bout d'un moment, cette hospitalité, ce qu'on dit, elle devient discriminatoire.
Bernard Chéou, à quand remonte la prise de conscience des dérives du tourisme de masse ?
Oh, c'est quelque chose qui je saurais pas vous donner une date précise, mais je dirais moi ça remonte aux origines. Hein. Donc il y a toujours eu des essayistes qui ont critiqué le tourisme de masse. Dès le début du tourisme, il y a eu des critiques. Hein. Il n'était pas forcément question de tourisme de masse, mais il y a eu des critiques. Et ce qui peut être intéressant, c'est de mettre l'accent sur le fait qu'on présente souvent comme quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne l'est pas du tout. Je peux vous donner un exemple. Hein. Là, l'extrait tout à l'heure datait de 67. Il y a un article publié par un sociologue en 67, donc ça fait 53 ans. Et dans cet article, l'auteur, qui s'appelle Burguelin, il montrait comment les touristes développaient un discours critique sur le tourisme, donc à partir d'entretiens hein, qu'il a fait, en se référant à des alternatives au tourisme de masse qui étaient liées à leurs propres attentes ou à leurs propres pratiques de voyage. Donc, il disait qu'il voulait avoir une relation authentique avec les choses, qu'il voulait se mêler aux gens, qu'il voulait voir les gens comme ils sont, comme ils habitent, comme ils vivent, de quoi ils parlent. Donc là, je vous cite des extraits des entretiens de son article. Hein. Donc ça, c'est des paroles qu'on pourrait présenter aujourd'hui comme actuelles et qu'on va retrouver encore aujourd'hui. Hein. Donc le côté nouveau de la critique, en fait, c'est quelque chose de récurrent. Hein.
Ce qui est peut-être nouveau, Bernard Chéou, c'est qu'avec la crise sanitaire, on peut imaginer peut-être que cette demande d'un tourisme de plus grande proximité, de plus grande convivialité et de rencontre véritablement avec les gens va être plus important. Qu'est-ce que vous en pensez, Prosper Vaner ?
La période du Covid a été intéressante parce qu'il y a beaucoup d'acteurs du tourisme, de l'hospitalité qui ont été obligés de revenir aussi aux sources, c'est-à-dire du mot hospitalité. dans le sens pas anglais qui est l'industrie du tourisme, mais dans le sens de l'hospitalité et de l'accueil qui a la même racine que l'hôpital, l'hôtel, etc. Donc ils ont été amenés à accueillir des gens qui devaient être en quarantaine parce qu'ils venaient d'un autre pays, des gens qui devaient être qui venaient travailler sur des hôpitaux, des gens qui étaient à la rue qu'il fallait qu'ils soient hébergés. Et donc là, on voit qu'un seul coup, l'hospitalité se réouvre. Et du coup, derrière, ça veut dire aussi qu'il a fallu adapter les politiques tarifaires, le type de service, parce qu'on n'accueille pas de la même façon quelqu'un qui est en vacances que quelqu'un qui est, par exemple, un aidant qui va accompagner quelqu'un qui est hospitalisé, qui ne sait pas pour combien de temps il va rester, qui a besoin d'autres renseignements, peut-être d'un support moral, etc. Et après, juste sur tourisme de masse aussi, je pense que nous, ça nous gêne un peu, puisqu'on a beaucoup d'acteurs dans la coopérative qui sont issus du tourisme social. Et souvent, tourisme de masse, on l'oppose à tourisme culturel ou tourisme durable, etc. Mais derrière, tourisme de masse, c'est les bus, les grands bateaux de croisière, et c'est surtout un tourisme des gens qui n'ont pas les moyens de se payer du tourisme durable ou d'autres formes de tourisme. Ou peut-être pas non plus c'est leur premier voyage et ils n'ont pas aussi cette facilité de voyager tout seul. Donc il y a aussi, c'est une des batailles à Venise. Cette catégorie derrière, des fois, c'est une approche aussi de touriste de classe, on va dire.
Et ce qu'on peut également dire, Bernard Chéhoux, c'est que on fait le procès du tourisme de masse, mais peut-être qu'il faudrait plutôt faire le procès du tourisme non régulé, parce qu'il existe des cas, et heureusement, où le tourisme profite largement à l'économie locale et permet même de protéger des sites naturels qui peut-être seraient laissés à l'abandon autrement.
Oui. Tout à l'heure, je parlais du tourisme équitable et solidaire. Donc, il y a des réseaux d'acteurs comme en France le collectif ATES, Association pour un tourisme équitable et solidaire. Donc, c'est pas forcément par rapport à des lieux qu'il s'agirait de protéger, mais qui vont être attentifs pour réduire les effets négatifs et maximiser les effets positifs, que ce soit dans la dimension économique ou dans les autres dimensions. Donc il y a déjà toute une offre ou ce que propose Prosper Vaner, que je connais pas, mais je vais regarder. Ça a l'air très intéressant et
il va nous expliquer dans un instant en quoi consiste effectivement sa société coopérative. Mais d'abord, l'invention d'un tourisme plus éthique nécessite sans doute de repenser notre rapport au temps. Dans le monde dystopique dépeint par Barjavel dans Ravage, la société aspire à retrouver une certaine lenteur, une lenteur qui est toute relative, comme on peut l'entendre dans cet extrait lu par Aliatovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
Au guichet, il avait reçu, en même temps que son billet, une brochure luxueusement imprimée. La compagnie Eurasiatique des Transports y célébrait le 30e anniversaire des Trois Glorieuses du remplacement. Ces Trois Glorieuses pouvaient être considérées pour l'époque comme un exploit peu ordinaire. Elles constituaient en quelque sorte la charnière de l'âge atomique, marquaient le moment où les hommes, sursaturés de vitesse, s'étaient résolument tournés vers un mode de vie plus humain. Ils s'étaient aperçus qu'il n'était ni agréable, ni au fond, utile en quoi que ce fût, de faire le tour de la Terre en 20 minutes à 500 km/h. Et qu'il était bien plus drôle et même plus pratique de flâner au ras des mottes à 2 ou 3000 km à l'heure. Aussi avait-il abandonné presque d'un seul coup, tout au moins en ce qui concernait la vie civile, les bolides à réaction atomique pour en revenir aux confortables avions à hélice enveloppante. Pour répondre aux désirs des populations, il avait fallu aménager les voies ferrées, remplacer les rails par la poutre creuse et les convois à roues par des trains suspendus. Car si l'on avait décidé qu'il n'était pas plaisant d'aller trop vite, si l'on criait qu'on avait envie de remonter dans le train comme grand-père, on n'aurait tout de même pas accepté de s'asseoir dans une brouette poussive qui se traînait sur le ventre à 300 km/h. Sur la ligne Nantes-Vladivostok, les plans de remplacement avaient prévu la construction, partout où ce serait possible, de la voie aérienne sur l'emplacement même de l'ancien chemin de fer afin d'utiliser ces ouvrages d'art.
Un extrait de Ravage de Barjavel, un roman paru en 1943, dans lequel le romancier critiquait déjà la société de l'accélération qui sera diagnostiquée plus tard par Hartmut Rosa, Bernard Chéhoux.
Oui, effectivement, donc le sociologue allemand Rosa qui a travaillé sur cette question et pour lequel, en fait, on se retrouve en position d'aliénation du fait de cette accélération. On est obligé... On peut prendre l'image de la roue, et on est comme des hamsters dans une roue et on est obligé d'aller de plus en plus vite sous peine d'être éjecté de la roue et de ne plus faire partie de la société.
Donc, à quoi ressemblerait ce tourisme qui valoriserait la lenteur, selon vous, Bernard Chéhoux ?
Alors, simplement prendre le temps de se plonger dans une localité pour la découvrir, se rendre disponible. ce qu'on a du mal à faire, hein, s'arrêter de courir pour percevoir, pour exister. Ça peut être retrouver l'étonnement, retrouver de la créativité, de l'imagination. C'est ce qui peut permettre la rencontre avec ce qui pourrait être mystérieux. Ou Rosa, il parle de résonance, donc c'est arriver, c'est se donner la possibilité d'une expérience de résonance avec le monde, ce qui n'est pas possible quand on est pris dans la course.
Ce terme d'expérience, il est intéressant parce qu'il est aussi beaucoup repris dans la rhétorique du tourisme commercial, Prosper Vaner.
Oui, il est repris, c'est-à-dire quand on est sur des standards où, par exemple, dans des hôtels, on va jusqu'à donner la couleur du rouge à l'ongle des personnes qui vous accueillent, le nombre de fois où ils doivent répéter votre prénom, la taille des chambres, on voit bien que là, il n'y a plus de rapport à l'autre, il n'y a plus de rapport à la... Et du coup, on vous vend derrière, ensuite, à nouveau, une expérience pour entrer en relation avec un territoire. Et par rapport à ce que vous défendez sur la vitesse, c'est pas pour rien qu'elle est aujourd'hui... On parle de slow tourisme, mais ça s'inscrit aussi dans le mouvement slow food, qui a un rapport à la lenteur, au territoire, à la rencontre, et aussi cette segmentation du temps où on aurait un temps où on travaille, un temps où d'un seul coup on serait en vacances et on rencontrerait les autres, et qui pose question, par exemple, le fait qu'on visite les musées en vacances et qu'on ne les visite pas dans sa propre ville, ça soulève des questions, notamment aux gestionnaires de musées, qui, quelle que soit la qualité des expositions qu'ils organisent. Donc voilà, il y a aussi ce rapport à la lenteur, mais aussi à cette segmentation du temps. Et donc voilà, tous les mouvements slow food, et il y a en France un mouvement aussi des cuisiniers slow food, tous les gens qui interrogent le rapport à la lenteur, au territoire, à la rencontre, à la relation humaine, à la dignité des personnes. Oui, c'est, il y a beaucoup de gens qui exercent déjà leur activité avec cet état d'esprit-là dans ce qu'on appelle le secteur du tourisme.
Repenser le rapport au temps, voilà ce dont on parle, mais aussi peut-être à l'espace, en particulier à travers cette notion d'hospitalité dont on parlait il y a un instant. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce besoin de repenser notre rapport à l'espace, Bernard Chéhou?
Alors, sur le rapport à l'espace... Peut-être, je dirais, on peut retenir en parlant d'hospitalité, ce qu'a proposé Derrida dans ses travaux sur l'hospitalité, dans son séminaire qui date de 96. Hein. Ce que j'en retiens, moi, c'est qu'il propose d'inverser la relation de propriété qu'on a. Alors, c'est pas vraiment avec l'espace et avec le lieu. Il propose d'inverser cette relation de propriété qu'on entretient avec les lieux et de penser que, en fait, nous ne sommes pas propriétaires des lieux, nous appartenons tous au lieu. On est accueillis par un lieu. Le temps qu'on s'y trouve, on n'en est pas propriétaire. Et du coup, bah, dans la relation d'hospitalité, on n'offre pas un lieu, mais on partage du temps. Donc il y a le lien avec le temps aussi. Et du coup, bah, l'hospitalité, chez Derrida, ça devient un geste qui on pourrait presque dire un geste poétique.
Et c'est une réflexion
qui... Ça participe aussi à la déséconomisation du monde.
Et une réflexion qui permet peut-être de gommer l'asymétrie de la relation d'hospitalité, Prosper Vaner. Le fait qu'on soit l'hôte d'un lieu avant d'être l'hôte d'une personne.
Mais sur le thème hospitalité, il est ambigu puisque... Oui.
Allez-y, Prosper
Vaner. Sur l'hospitalité, il y a une ambiguïté parce qu'en anglais, c'est l'industrie du tourisme. Et après, il y a toute l'approche hospitalité, on va dire plus latine, ou ce qui a été présenté sur Derrida. Vous m'entendez ou pas?
On vous entend.
Allô, vous m'entendez?
Oui.
Oui, absolument, on vous écoute, Prosper Vaner.
Ah, alors, non, ce que je disais, oui, sur ce rapport au territoire, où des fois... Oui, je disais sur ce rapport au territoire, où on dirait qu'il y a une différence entre le moment où je parle et où vous m'entendez.
Oui, il y a un décalage, en effet, mais on vous écoute.
Donc ce que je disais sur le rapport au territoire, où des fois on va aller chercher très très loin un rapport à l'autre, à un autre territoire, et des fois c'est par exemple les balades Migrants Tour qui permettent de découvrir à Paris l'histoire des migrations avec des personnes qui sont réfugiées. Donc le rapport aussi à la distance et au temps, il se joue comme l'on disait sur le rapport à la lenteur.
C'est un nouveau rapport au lieu qui implique effectivement de dépasser le sentiment de propriété, comme le disait Bernard Chéhou, selon vous, Prosper Vaner?
Ben nous, il y a toute la question du rapport au territoire, c'est aussi au rapport à la communauté qui vit sur cet territoire, aux gens qui sont de passage, c'est pas pour rien qu'on s'appelle les oiseaux de passage, il y a énormément de personnes qui sont de passage sur un territoire pour des périodes plus ou moins longues, et la question c'est comment ces personnes sont accueillies dans ce territoire, ont les mêmes droits, ont le même respect de leur dignité, Et donc nous, c'est pour ça qu'on l'idée, c'est d'aller au-delà du tourisme et de retravailler cette question de la régénération des communautés, comment une communauté elle est accueillante, que ça soit entre générations, avec des nouveaux arrivants, avec des gens là qui restent quelques instants. Et donc c'est tout le rapport à la communauté, au territoire et aux histoires qu'on partage.
Vous parliez, Bernard Chéhoux, de déséconomiser le tourisme, ce qui nous fait penser à une réflexion du philosophe Bruno Latour. Ce qu'il a mis en valeur dans un article d'AOC notamment, c'est que la crise sanitaire a mis en valeur le décalage entre l'économie et l'expérience usuelle des humains. Est-ce que ça, cela pourrait avoir un impact sur le tourisme ?
Je ne sais pas si ça, ce serait bien que c'est un impact, parce que je pense qu'il faut déséconomiser le tourisme de la même manière, et je faisais écho à Latour en parlant de déséconomisation, c'est un écho volontaire, une référence. Je pense que le tourisme doit faire sa part, ce serait souhaitable. Après, je ne pense pas que ce soit très probable. Ça va rester sur des expériences, à mon avis, sans vouloir prédire l'avenir, sur des expériences marginales, qui se feront à côté du reste. Donc je ne crois pas là un changement
Mais
massif.
Le changement passera peut-être par la façon d'appréhender le tourisme, et notamment du côté des chercheurs, parce que Prosper Vanner, je vous présentais comme le fondateur de la société coopérative Les Oiseaux de Passage, mais vous êtes aussi chercheur, et vous avez commencé une thèse sur la question du tourisme. Est-ce que selon vous, il faut cesser d'analyser le tourisme uniquement par le prisme de la consommation, et quel rôle les chercheurs ont-ils à jouer ?
Si j'ai commencé cette thèse, c'est parce que justement, sur tous les exemples qui ont été donnés de gens qui travaillent l'hospitalité, que ça soit accueil paysan, les hôtels naturels dans les parcs, dans les parcs régionaux, les chambres d'hôtes, etc., il y avait entre la pratique qu'ils avaient envie de mettre en œuvre d'hospitalité et les règles qui leur étaient imposées, les standards, les plateformes, les systèmes de notation, de commentaires, de calcul du prix, ils n'étaient plus du tout dans un rapport d'hospitalité. Et donc, il a fallu pour nous comprendre d'où venaient tous ces standards, ces cadres législatifs, ces façons de calculer les tarifs. Et le travail de recherche a été sur cette tension entre des gens qui sont amenés à accueillir des gens en vacances, mais aussi des aidants, des gens qui viennent travailler, donc avec des formes d'hospitalité différentes, adaptées, etc. Et notamment dans la forme la plus poussée, on va dire, des plateformes aujourd'hui, où on est sur du revenu management avec des prix qui peuvent changer entre le matin et l'après-midi, des chambres standards, des logiques de commentaires, de notations entre la personne que vous accueillez, vous, là, pas la possibilité d'entrer en contact direct. Donc nous, on a découvert un décalage énorme et ça a été important de participer aux travaux de recherche pour comprendre déjà le secteur dans lequel on était et pour être ensuite en capacité d'y faire des propositions et surtout de bénéficier aussi des nombreux travaux qui sont faits actuellement par les chercheurs sur ces sujets de l'hospitalité, des droits culturels, des communs, du monde coopératif, et de pouvoir l'appliquer aussi sur nos terrains et faire ce dialogue entre le monde de la recherche et les initiatives qu'on réunit au sein de notre coopérative.
Bernard Chéhoux, sur ce rôle de la recherche, il faudrait peut-être aborder la question sous l'angle de la mobilité plus que du tourisme pour englober tous les déplacements ?
C'est une possibilité, oui, effectivement, de s'intéresser à l'ensemble des mobilités. De toute manière, il est difficile de distinguer les mobilités qui soient uniquement touristiques du reste des autres mobilités. Il y en a qui va être facile de différencier, mais il y en a, c'est pas toujours évident le tourisme, hein, c'est un secteur qui est multidimensionnel et pluridisciplinaire, et du coup le délimiter n'est pas toujours facile pour un chercheur. Alors s'intéresser à la mobilité en général, c'est d'autant plus un enjeu nécessaire qu'on est face à la catastrophe du réchauffement climatique qui est annoncée.
Avec des déplacements potentiellement très, très importants. Prosper Vanner, vous voulez réagir ?
Oui, si vous voulez dire, on annonce là, l'année dernière, on a battu un record du nombre de personnes qui se sont réfugiées. Et les chiffres annoncent 250 millions de personnes qui vont être amenées à se déplacer à cause du réchauffement climatique. Et derrière, en termes de lieux d'accueil, c'est très clair, il y a à la fois le secteur, on va dire, touristique, mais derrière, il y a les foyers de jeunes travailleurs, il y a des aires d'accueil, il y a aussi vraiment des distinctions entre les formes d'accueil, et on voit des lieux qui émergent, qui sont en capacité d'avoir un espace pour accueillir des gens en vacances, des dortoirs pour des plus jeunes, des chambres pour les étudiants, et peut-être un bar-restaurant qui est ouvert sur la population, donc des lieux qui mixent les formes d'hospitalité, et une hospitalité ne se construit pas contre l'autre. Et voilà, nous, c'est ce type d'hospitalité qui nous intéresse. Et on parlera tout à l'heure d'Hôtel du Nord, la coopérative où je travaille aussi. On travaille énormément avec l'Hôpital Nord, ce qui veut dire aussi des gens qui sont en capacité d'accueillir des gens sur des longues durées, qui n'ont pas les moyens de payer une nuit au tarif touristique normal, qui ne savent pas combien de temps ils vont rester. Donc il y a quand même des différences assez importantes. Et pour ça, il faut que les gens puissent entrer en relation, et on ne peut pas le faire à travers une plateforme qui vous donne le contact qu'une fois que vous avez payé.
La crise du coronavirus va-t-elle nous permettre de réinventer le voyage? On continue à en parler dans un instant, mais d'abord les Vampire Weekend nous donnent un avant-goût des vacances. Holiday sur France Culture.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Roquigny.
C'était Holiday de Vampire Weekend sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Bernard Chéou et Prosper Vaner sont toujours avec nous pour imaginer les vacances de demain. Alors nous parlions tout à l'heure de la nécessité de fabriquer du temps ensemble. C'est aussi l'objectif des Oiseaux de Passage, la société coopérative dont vous êtes le fondateur, Prosper Vaner.
C'est une plateforme coopérative qu'on a fondée avec plusieurs acteurs, membres par exemple des réseaux des auberges de jeunesse, accueil paysan, des gens aussi issus de la culture ou de l'économie sociale et solidaire, ou des gens qui du tourisme on va dire classique, mais qui justement n'arrivaient plus à exercer leur activité avec la standardisation du tourisme, ses logiques tarifaires, etc. Et qui, pour qui le numérique était un outil important, et qui ont cherché d'abord à exercer leur activité sur les plateformes proposées actuellement. Et toute la dimension, on va dire, culturelle, sociale, de la relation humaine n'étant pas possible sur ces plateformes, on a décidé, il y a maintenant 4 ans, d'essayer de développer ensemble une plateforme qui permettrait justement d'entrer en relation avec les personnes et d'avoir des types d'une hospitalité qui aille, de toutes les personnes qui sont amenées à être de passage sur un territoire. Et surtout de partager aussi les productions de ce territoire, les histoires, etc. C'est-à-dire qu'on part de réalités qui existent, en fait, hein, mais qui sont rendues invisibles. Aujourd'hui, sur les plateformes actuelles, des gens qui exercent leur métier et qui ont des difficultés à le faire dans les standards, les systèmes de distribution, etc., qui existent aujourd'hui.
Et l'idée était de mettre en avant le collectif plutôt que l'individu.
Oui, on a réfléchi à un moment comment on sortait aussi de ces systèmes de notation, de certification qui créent pas une relation saine entre les personnes qui voyagent et ceux qui accueillent. Et on s'est aperçu qu'on était toutes les réseaux dans lesquels on est sont des communautés sur des territoires qui travaillent ensemble, soit de manière formelle ou informelle. Ça peut être un parc régional, ça peut être une coopérative d'habitants, ça peut être un réseau d'accueil paysan. Et du coup, qui se connaissent et qui connaissent aussi des artistes, des producteurs. Et donc, c'est eux qui, sur la plateforme, partagent à la fois des offres d'hébergement, des offres d'activité, des bons plans, des histoires, des endroits où aller, et qui vous invite à venir sur ce territoire les rencontrer. Donc voilà, c'est l'idée de la communauté. On peut arriver pour dire complètement à la communauté, à ce que vous appeliez quelqu'un pour être hébergé, et il puisse vous conseiller d'aller chez un autre parce que justement son offre est plus adaptée à ce dont vous avez besoin.
Et ça, ça implique de créer une vraie relation de confiance.
Mais la relation de confiance, ce qui est dommage par exemple sur les plateformes actuelles, c'est que tout, il existe je vous parlais d'accueil paysan, mais Hôtel et Naturel, la marque Parc, il existe déjà suffisamment de normes, de marques, etc., qui donnent confiance dans la relation, mais tout ça, ça disparaît sur les systèmes numériques aujourd'hui pour laisser la place seulement aux commentaires et à la notation. Donc un système de contrôle par les usagers eux-mêmes avec tous les biais qu'on peut imaginer. Et du coup, nous, c'est de remettre en valeur, au contraire, les auberges de jeunesse, c'est des réseaux qui existent depuis plus de 100 ans. Accueil paysan, il y en a 1 000 en France, etc., etc. Donc, de fait, on peut que avoir confiance. C'est des gens qui exercent leur activité depuis suffisamment longtemps. Et après, il y a la logique de la cooptation. Ils vont coopter des gens avec qui ils travaillent et dont ils connaissent à la fois la qualité du travail, etc.
Bernard Chéhoux, qu'est-ce que ça vous inspire, cette initiative qui a été lancée par Prosper Banner, cette plateforme coopérative des oiseaux de passage?
Je trouve que la dimension collective est très intéressante quand il parle d'un accueil par une communauté, par un collectif, et non pas par un individu ou par... et ça, je pense que c'est vraiment porteur de richesse sociale au niveau des échanges, au niveau... Donc, je n'en pense que du bien sur la base de ce que j'entends.
Ce qu'il faut souligner aussi,
donc c'est différent de couchsurfing.
Alors, on va parler de couchsurfing dans un instant, mais ce qu'il faut souligner d'abord, Prosper Vanner, c'est que l'échange monétaire n'existe mais que comme dédommagement.
Non, nous, on a dans les pratiques des gens qui accueillent, il y a des acteurs, c'est des acteurs qui exercent, qui on peut payer en euros classiquement, on va dire, hein. Mais derrière, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres modalités de paiement qui étaient utilisées. Ce que je vous disais, déjà, des prix différenciés. Je vous disais, on fait pas le même tarif à quelqu'un qui vient passer un week-end que quelqu'un qui est un aidant, qui est là pour une durée assez longue, qui va devoir peut-être revenir, etc. Donc, il y a déjà le calcul du juste prix, on va dire, entre les gens qu'on accueille. Mais après, il y en a qui vont permettre aussi d'utiliser des chèques vacances. Il y en a aussi qui vont utiliser les monnaies locales. Il y en a une soixantaine en France. Donc c'est des monnaies qui sont réinjectées sur le territoire. Donc on peut imaginer déjà de payer une partie de ses vacances en monnaie locale et l'autre en euros. Et puis après il y a aussi les barters qui sont des monnaies inter-entreprises qui ont notamment France Barter qui explose avec la crise actuelle puisque les entreprises n'ayant plus de liquidité, elles utilisent ces monnaies aussi inter-entreprises pour échanger. Donc là aussi les plateformes ne permettent, parce qu'elles fonctionnent sur un modèle qui est de prendre un pourcentage sur la transaction, ne permettent que la transaction en euros et le contact une fois le paiement. Nous, c'est le contact direct et après, vous pouvez imaginer des formes de paiement. Et tout ça, ça oblige à inventer des nouveaux systèmes qui n'existent pas aujourd'hui. Par exemple, ce type de moteur de paiement n'existe pas.
Et cette société coopérative, cette plateforme des oiseaux de passage, elle a été créée dans le sillage d'un autre projet, Hôtel du Nord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors donc je suis aussi gérant d'une coopérative qui s'appelle Hôtel du Nord, qui est dans les quartiers nord de Marseille, qui va fêter ses 10 ans là en novembre, qui a été créée justement avec tout un travail qui était fait entre une conservatrice du patrimoine et des habitants dans les quartiers nord de Marseille sur les récits de ces quartiers, récits de l'histoire ouvrière, récits des luttes sociales, récits des jardins ouvriers, et où tout ça n'était ni mis en avant, on va dire, par le tourisme, ni en termes de patrimoine protégé. Et donc à partir de là, il y a eu l'envie, quand Marseille a gagné le titre de capitale européenne de la culture, de dire, eh ben, on va ouvrir l'hospitalité dans les quartiers nord de Marseille, on va inviter les gens à venir dormir dans nos maisons, à parcourir nos quartiers et à avoir une autre vision de ces quartiers qui est celle qui est transmise soit par la presse, soit même par la mairie centrale avec l'office du tourisme ou par le marketing territorial. Et donc de là est né un réseau aujourd'hui d'une soixantaine de chambres, on a un catalogue d'une centaine de balades, on a édité des ouvrages et vous pouvez acheter dans nos chambres le savon de Marseille, le Tescopti par exemple qui est comme nom 1336 parce qu'il raconte les 1336 jours de grève des salariés des Téléléphants pour récupérer leur fabrique sous forme de coopérative. Donc voilà, c'est une invitation à rencontrer des gens, mais aussi à découvrir leurs histoires, leurs récits. Et donc aujourd'hui, c'est un réseau qui s'est retrouvé lui-même après l'année capitale de la culture, confronté au besoin d'avoir un nouvel outil pour diffuser les contenus. Et c'est là où on a fait un appel au niveau national aux gens du secteur du tourisme social, etc., et la culture, pour leur dire, est-ce qu'on est les seuls?
Et au bout de 10 ans, quel bilan est-ce que vous en faites, notamment en termes de retour des gens qui ont pu pratiquer ce tourisme alternatif?
Déjà, nous, on parle pas de tourisme. Vous verrez pas de mot tourisme. On parle de passagers, on parle de voyage. C'est aussi une des questions qui nous a amené à faire de la recherche, hein, ne serait-ce que sur les mots, sur la façon dont on accueille les personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, plus personne se pose la question, comme il y a 10 ans, quand on avait dit que des gens allaient payer pour venir dans les quartiers nord de Marseille. Ça avait fait, la première fois qu'on l'a fait, ça a été sur tous les journaux nationaux. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Et donc, du coup, des gens viennent chaque année, se baladent, sont accueillis dans ces quartiers, etc., dorment dans des chambres. Et même aujourd'hui, avec Airbnb, on va dire qu'il doit y avoir 2-3 000 lits qui existent aujourd'hui. Mais là, on retombe dans ce modèle marchand, c'est-à-dire des prix très bas, des gens qui sont en concurrence les uns avec les autres, de l'illégalité, de la concentration dans les quelques lieux touristiques. Donc à nouveau, une valorisation touristique, mais qui ne se fait pas avec la communauté et ni avec les institutions locales.
Cet autre type de voyage, ce qu'on peut appeler tourisme alternatif, tourisme durable, tourisme plus éthique, Bernard Chéou, est-ce qu'il faut aujourd'hui réfléchir à un modèle économique qui lui permette d'être viable ?
Alors, je ne sais pas si il faut réfléchir à un modèle économique qui lui permette d'être viable. Moi, je pense que l'action que décrit Prosper Vanner, elle est exemplaire à plus d'un titre. Et je ne crois pas que justement ce soit l'économique. Je ne dis pas qui se préoccupe pas de l'équilibre économique, évidemment. Mais je ne sais pas s'il faut partir du modèle économique. Moi, je pense qu'il faut partir du fond. Du fond du projet, comme ils l'ont fait apparemment, et le reste y suit. Je pense que l'économique, ça doit être une conséquence heureuse d'une activité qui est éthique, qui veut dire quelque chose, qui parle aux gens, qui fait écho à leur être, à ce qu'ils sont, et du coup là, ça marchera.
Et cela passe peut-être par.
Il y aura une conséquence par le fait heureuse au niveau économique.
Et est-ce que cela passe aussi, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, par le fait de réintroduire de la gratuité dans le voyage ? C'est le projet de Couchsurfing, donc cette plateforme numérique qui met en relation des voyageurs et des particuliers qui acceptent de les héberger.
En 6 ans, je dirais, j'ai hébergé plus de peut-être 150 personnes. Environ 70 personnes m'ont hébergé dans 14 pays.
J'ai visité la Syrie et le Liban par ce biais-là, entre autres. Donc avec Couchsurfing, il n'y a vraiment pas de limite et vraiment on peut voyager partout dans le monde.
Janer est turc, qui vient d'Istanbul. Je vais l'héberger pendant 4 jours à la maison. J'ai ce plaisir-là. Donc voilà, on aura le temps de faire connaissance.
I want to have a nice trip.
Je veux pouvoir voyager, rencontrer les habitants pour connaître mieux la culture, le pays. Avoir un petit déjeuner local, comme maintenant, c'est tout. Je ne cherche pas le grand luxe.
I'm not going after luxury.
Je ne cherche pas le grand luxe, des témoignages recueillis par France 3. Couchsurfing, Bernard Chéou, c'est en quelque sorte l'anti-Airbnb.
Oui, on peut dire ça comme ça. Effectivement, puisque ça permet potentiellement un accès au voyage indépendamment du pouvoir d'achat des usagers. Après, si on va regarder qui font partie, Couchsurfing, c'est le réseau le plus connu, le plus important, mais si on va regarder qui fait partie de ce réseau, on a quand même un certain entre-soi. Hein. Le membre type, il est principalement occidental ou urbain ou... Donc, c'est ce qui est exemplaire dans les projets que gère Prosper Vanner. Hein. Ce que je vois, c'est qu'il y a un brassage, il y a des échanges, il y a une ouverture sociale qui est beaucoup plus importante qu'avec le Couchsurfing. Il y a déjà la dimension collective qu'il a évoquée tout à l'heure. Et en plus, il y a ce brassage qu'on va retrouver en partie, mais il y a quand même des membres qui appartiennent à un certain milieu social. Hein. Ils sont principalement américains ou nord-américains ou européens.
Mais alors Couchsurfing ne permet peut-être pas de brassage social, mais tout de même un brassage culturel qui est assez intéressant à analyser.
Oui. Il y a plein de choses intéressantes à analyser dans le Couchsurfing, ce brassage culturel. Hein. Et donc, ça, quand on accueille ou quand on va chez quelqu'un, on est confronté à ses différences culturelles, à ses propres limites. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et qui est la relation d'hospitalité, moi, je dirais qu'elle est mystérieuse, elle est difficile à décrire. En fait, il faut la vivre pour comprendre ce qui peut se passer. Puis, ce qu'on peut dire également, c'est qu'à chaque fois, elle est différente. Puisque chaque relation va être unique.
Mais accueillir un voyageur, c'est tout de même donner accès à l'intimité de son domicile, Bernard Chéou, et ça, c'est pas un acte anodin.
C'est pas un acte anodin et donc c'est faire le pari de la confiance entre les personnes et c'est ce qui va permettre la génération de liens qui sont très forts au moins pendant le temps de l'hospitalité, même si après ça peut se distendre parce que si on accueille quelqu'un deux jours, on peut garder des liens avec la personne, mais c'est quand même plutôt rare. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très fort, au moins pendant le temps. Il y a un partage de l'intimité qui se fait de manière très très immédiate. Le fait qu'on sache que ça va pas durer joue peut-être dans cette facilité à partager l'intimité.
Quel regard est-ce que vous posez sur le succès de Couchsurfing, Prosper Vaner?
Dans nous, dans nos membres, il y a des gens qui pratiquent le Couchsurfing, aussi l'échange de maison. Ce qui pose question, c'est aussi sur ces plateformes, comment elles évoluent. Et Couchsurfing, il y a un gros débat parce que c'est devenu une société privée qui le gère hein, et qui a mis dans ses statuts qu'ils allaient monétiser les données.
Alors et effectivement, c'était une association à but non lucratif qui est devenue une société par action en 2011.
Voilà. Et donc, il y a des débats. Il y a donc d'ailleurs des gens qui sont en train d'essayer de créer ce qu'ils appellent du vrai Couchsurfing. Et on a la même chose sur l'échange de maisons, puisque là aussi, il y a une monétisation par une plateforme française qui est Guest to Guest, où avant, on échangeait les maisons sans leur donner de valeur, et aujourd'hui, elles ont une valeur en points. Donc, on voit que d'un seul coup, on retourne sur une logique de marchandisation de l'échange, alors qu'avant, un échange de maisons, on pouvait échanger un appartement contre une grande maison. L'important, c'était la rencontre et l'échange entre les personnes. Donc, voilà, il y a aussi pour nous ces questions à un moment du modèle économique et comment il n'est pas anodin et il va influencer sur le type de relations qui va se créer entre les autres. C'est d'ailleurs un des choix qui nous a amené à aller sur l'abonnement et ne pas aller de prendre sur les commissions un pourcentage parce que ça induit de fait un type de développement.
C'est vrai que le mois dernier, Couchsurfing a annoncé qu'il fallait désormais payer un abonnement pour avoir accès au site. Le site a été rattrapé par une logique de rentabilité, selon vous aussi, Bernard Chéhoux ?
Oui, c'est une évolution qui est liée en fait à la personnalité du fondateur. Hein, puisque au départ, oui. Comme le disait Prosper Vaner, c'est une association qui était qui fonctionnait avec des bénévoles. Et puis il est allé chercher des financeurs, il a transformé ça sans l'accord en fait de tous ceux qui avaient participé à la construction du réseau, même si c'était le fondateur, il n'avait pas fait ça tout seul, il y avait eu un nombre d'apports de bénévoles énorme. Moi j'ai été bénévole pendant des années, j'envoyais des messages non pas copier-coller mais personnalisés de bienvenue aux nouveaux membres qui adhéraient, donc je prenais du temps pour le faire. Quand c'est devenu une société, on a tout arrêté. Et là, maintenant, ils sont revenus parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ça marchait quand même mieux quand il y avait des bénévoles qui s'impliquaient, qui s'investissaient, mais c'est pas pareil maintenant que c'est une société.
Ça nous dit quand même quelque chose, ce succès de Couchsurfing sur la valeur qui est associée au voyage. Est-ce que vous diriez, Bernard Chéhoux, que c'est quelque chose qui a changé au fur et à mesure du temps? Est-ce que l'envie d'exotisme a cédé la place peut-être à l'envie de rencontre davantage?
Je pense que... C'est difficile d'être catégorique, hein. Ça va être très. Il faudrait documenter ça selon les types de personnes, mais je pense que l'envie de rencontre, elle a toujours été présente. Je le disais tout à l'heure avec l'article de 67, qui le met bien en évidence hein, sur les personnes qui étaient interrogées, hein, qui avaient une envie de rencontre, qui était très très présente. J'étais surpris quand je suis tombé sur cet article parce que j'avais l'impression de lire des entretiens actuels de touristes que je peux être amené à faire avec un collègue. Donc je crois que cette envie de rencontre, elle est présente depuis l'origine. Après, sur l'exotisme, il y a une évolution, parce qu'il y a des compétences, le monde il est beaucoup plus ouvert aujourd'hui. Donc on est beaucoup plus familier de l'ensemble du monde, pas tout le monde, mais pour une bonne partie de la population mondiale, il y a une plus grande familiarité. Donc il y a aussi une perte de mystère et de diversité, au moins en apparence. Je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui d'aller chercher la
l'étranger la surprise et l'autre.
L'étrangeté, une expérience d'étrangeté, donc d'être confronté à quelque chose d'inédit, qui nous transformerait. Et ça, c'est lié aussi à ce que dit, ce que met en évidence Rosa, c'est-à-dire qu'on essaye de contrôler le monde, on veut se le rendre disponible, et plus on essaye de le contrôler, plus celui-ci se dérobe. et donc il nous échappe, d'une certaine manière.
Prosper Vanner.
Non, sur mais je revenais un peu sur ce que vous aviez dit au début sur la volonté d'étrangeté, etc. C'est pas forcément aussi une obligation la relation, mais c'est faut que ce soit une possibilité. Et au jour d'aujourd'hui, c'est justement ce qui manque sur tout ce système-là, c'est qu'il le permet de moins en moins. Et du coup, il y a des gens des fois qui veulent voyager, être tranquilles et qui n'ont pas forcément envie de rencontrer les autres, etc. Et qui ont juste envie d'un hébergement. Mais il faut aussi qu'ils aient la possibilité, s'ils ont envie d'entrer en relation avec un territoire, avec une communauté, avec des gens. Et après, mais ça a déjà été dit sur vos précédentes émissions, ça reste quand même un produit de luxe, le tourisme. Et vous avez commencé l'émission en citant les 1,3 milliard de touristes que cite l'OMT. En fait, c'est 1,3 milliard de voyages. On est plus proche. Oui, l'Organisation mondiale du tourisme. On est plus proche, en réalité, de 500 millions de personnes dans le monde, dont la moitié, c'est pour des raisons professionnelles. Donc, on est à 250 millions de personnes qui pratiquent ce type de voyage. Donc, on est dans les toujours 5%, 3 à 5% de gens qui utilisent l'avion. Donc, on voit que ça reste à la fin quand même. C'est un système qui s'est imposé, mais qui, à la fin, les gens qui en bénéficient, ça reste très, 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 très restreint. Même en France, où il y a beaucoup de gens qui voudraient partir, qui ne peuvent pas partir avec cette forme de tourisme.
Sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho, nous sommes toujours en compagnie de Prosper Vanner, fondateur de la société coopérative Les Oiseaux de Passage, et de Bernard Chéou, maître de conférence à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Perpignan. Alors, à la fin du 19e siècle, Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, entreprend de traverser les Cévennes à pied avec comme tout compagnon son ânesse Célestine. Il en a tiré un récit publié en 1879, Voyage avec un âne dans les Cévennes, extrait. Dans une petite localité, nommée le Monastier, sise en une agréable vallée de la montagne, à 15 milles du Puy, j'ai passé environ un mois de journées délicieuses. Le Monastier est fameux par la fabrication des dentelles, par l'ivrognerie, par la liberté des propos et les dissensions politiques sans égale. C'est une vraie Pologne montagnarde. Au milieu de cette Babylone, je me suis vue comme un point de ralliement. Chacun avait à cœur d'être aimable et utile pour un étranger. Cela n'était pas dû simplement à l'hospitalité naturelle des montagnards, ni même à l'étonnement qu'on y avait de voir vivre de son plein gré, au Monastier, un homme qui aurait tout aussi bien pu habiter en n'importe quel autre endroit du vaste monde. Cela tenait pour une grande part à mon projet d'excursionner vers le sud, à travers les Cévennes. Un touriste de mon genre était jusqu'alors chose inouïe dans cette région. On m'y considérait avec une piété dédaigneuse comme un individu qui aurait décidé un voyage dans la Lune. Toutefois, non sans un intérêt déférent, comme envers quelqu'un en partance vers le pôle inclément. Chacun était disposé à m'aider dans mes préparatifs. Une foule de sympathisants m'appuyait au moment critique d'un marché. Je ne faisais plus un pas qui ne fût illustré par une tournée de shopping et célébré par un dîner ou un déjeuner. « Que vous inspire ce récit de Stevenson qui nous replonge dans les Cévennes de la fin du 19e siècle, Bernard Chéhoux ?
Ça m'inspire... en fait, je pense au rôle du corps qui est important. Hein. Et quand on marche, bah, le corps, il sent la terre, il sent... Il y a tous les sens qui sont en alerte. Donc le fait de marcher, puis ça permet aussi les relations sociales, on le voit dans l'extrait que vous avez choisi, parce que il n'y aura pas de décalage dans le rythme, quelque chose qu'on peut retrouver dans les circuits aujourd'hui, hein, où vous avez des touristes qui passent et qui sont en relation avec des gens qui soient leur vendent des services ou qui sont dans leur activité, dans leur quotidien, quoi. Donc il y a un décalage dans le rythme de vie des uns et des autres. Alors que là, on n'aura pas ce décalage. Donc il y a à la fois le rôle du corps pour sentir le monde, pour le ressentir, et puis ça permet l'échange social aussi. Donc c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, hein, de prendre le temps de se plonger dans un lieu pour découvrir le lieu et entrer en relation avec les gens.
Prendre le temps et vivre dans la simplicité, Prosper Vaner, peut-être qu'un tourisme plus éthique, c'est aussi un tourisme plus frugal.
Plus frugal, juste pour revenir sur l'extrait, je suis tout à fait d'accord avec l'importance de la marche, hein, de ce rapport au temps. Et il m'a fait penser aussi à la question de l'hospitalité, au plaisir d'accueillir. On parle souvent aussi des gens qui voyagent, mais aussi des gens qui accueillent. Il y a beaucoup de gens, notamment des fois, qui ont ouvert des chambres d'hôtes, c'est dans un moment de changement de vie, où ils ont envie d'accueillir, d'avoir des rapports à l'autre, par rapport qu'ils n'avaient pas dans leur métier précédemment, et pour qui, justement, gérer un hôtel, un camping, développer une activité de guide, etc., c'est essentiellement dans ce rapport d'hospitalité. Et c'est eux qui, aujourd'hui, ont du mal à peut-être exercer leur activité. Donc c'est aussi important, à la fois pour la personne qui accueille que pour la personne qui voyage. Après, sur le rapport à la frugalité, c'est toujours la question du rapport à la consommation. Et donc, voilà, c'est une espèce, oui, de lenteur, d'avoir envie de voyager pour être avec l'autre, mais on peut voyager aussi des fois pour des raisons professionnelles, pour il y en a que c'est des pèlerinages, il y en a c'est pour des raisons de santé, donc il y a beaucoup de raisons de voyager et qui sont autant de prétextes à rencontre. Et après, les modalités vont changer suivant sa situation. On ne voyage pas pareil quand on voyage pour raisons professionnelles qu'en famille ou quand on est en recherche personnelle.
L'un des enjeux, c'est de rendre ces nouveaux services, ce nouveau tourisme dont on parle depuis le début de l'émission, accessible à ceux qui ne sont pas habitués du voyage, qui ne sont pas socialisés dans ce sens. Bernard Chéhoux, vous disiez tout à l'heure que le tourisme collaboratif, qui est incarné notamment par... le couchsurfing était l'apanage de classes plutôt favorisées de la population.
Oui, c'est le véritable enjeu et le grand enjeu, hein. Ce que permet, encore une fois, les projets qui sont mis en œuvre par Prosper Vaner, hein, d'une certaine manière, de résoudre cet enjeu en partie. La démocratisation du tourisme en direction des personnes et des ménages peu dotés en capital économique, c'est un enjeu et c'est compliqué puisque... Il y a donc la catastrophe environnementale du réchauffement climatique et il y a en même temps cet enjeu-là qui est important. Et donc essayer de viser à la fois ces deux enjeux, c'est pas une équation facile à résoudre, mais c'est nécessaire.
Et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui de permettre à un maximum de personnes d'accéder aux vacances, aux voyages, au tourisme, que le tourisme dit commercial connaît depuis plusieurs décennies une montée en gamme, Prosper Vaner.
Oui, ça c'est net qu'il y a une montée en gamme. Vous l'avez cité dans vos émissions avant, hein, c'était pour le Club Med, mais aussi dans le tourisme social. Notamment depuis qu'il y a eu un passage de l'aide à la pierre ou à l'aide à la personne, on est sur un effet de montée en gamme, et ce qui fait qu'on a reculé en termes d'accès à ce type de vacances, hein, parce qu'il y a des gens qui passent pas forcément des vacances en faisant du tourisme, et donc ça pose question sur le tourisme social et les acteurs du tourisme social sur comment continuer leur mission d'accès aux vacances. Mais ce que vous dites aussi, c'est une question aussi d'avoir envie de partir, de savoir comment partir, et pas tout le monde à cette capacité-là, et du coup tout le travail des acteurs du tourisme social était aussi un accompagnement. Et ce qu'on met aujourd'hui dans le tourisme de masse, hein, ces bus et ces bateaux de croisière répondent aussi à des gens pour qui c'est peut-être le premier voyage ou le seul voyage et où ça va être une des possibilités de partir en se sentant en sécurité avec des prix qui sont peut-être moins chers. Et du coup c'est pour ça que nous cette distinction nous gêne, et cette montée en gamme elle se coupe d'un deuxième risque qui aujourd'hui, pour le dire à Venise, la ville, et surtout que ça a été perçu assez positivement en France, pense se faire payer l'entrée pour gérer ces flux. Mais derrière, en fait, il y a une lecture qui est purement le, qui est simplement le panier de dépenses moyennes du tourisme, ce qui guide énormément les politiques du tourisme, et que quelqu'un qui vient et qui dort sur place dépensera cinq fois plus que quelqu'un qui vient juste pour la journée. Et c'est cette logique qui pilote cette politique du tourisme. Donc il y a à la fois une montée en gamme, et c'est pour ça que le sous-titre des oiseaux de passage, si vous regardez le logo, c'est le droit au voyage. Et pour nous, il y a un risque aujourd'hui avec cette montée en gamme, ces droits d'entrée, etc., en fait, de restreindre encore plus le voyage pour ceux dont qui peuvent en avoir besoin ou qui voudraient le faire, et d'en refaire de plus en plus un produit de luxe. Et d'ailleurs, je termine juste sur le virage sur, vous avez parlé des Chinois et qu'il y avait des politiques pour accueillir le tout. Je sais pas si la raison c'est que les gens ont envie de rencontrer les Chinois, le peuple chinois, sa culture, etc., ou alors c'est parce que c'est le pays qui a le panier moyen de dépenses le plus élevé.
Une dernière question que j'aimerais vous adresser, Bernard Chéhou, à l'heure où la crainte à l'égard du virus reste encore très forte et où les frontières n'ont clairement pas toutes rouvertes, est-ce que l'été qui vient serait une occasion inespérée de faire redécouvrir ou découvrir le tourisme alternatif aux Français? Un tourisme plus local, plus respectueux de l'environnement?
Effectivement, oui. Et ce qu'on peut dire, c'est que les acteurs, beaucoup d'acteurs du tourisme se sont précipités sur cette idée-là, hein, puisque vous avez des voyagistes spécialisés sur l'Asie qui vont proposer des séjours en France du fait de la pandémie. Et aussi, vous allez retrouver ça aussi dans l'offre des acteurs que j'évoquais tout à l'heure, du tourisme équitable et solidaire, hein, en France. Donc, mais je pense que il y a un effet peut-être accélérateur et révélateur qui est lié à la pandémie, mais je pense que c'était des évolutions qui étaient en germe avant la pandémie du fait du réchauffement climatique. Donc il y a une sensibilisation chez un certain nombre d'acteurs du tourisme qui fait que ils tiennent beaucoup plus compte de la distance et des déplacements, du rapport entre la durée du séjour et la distance dans la construction de leur offre.
Il y en a une qui est vachement impatiente, c'est la pépette qui part en vacances. Demain elle s'en va planter sa tente sur une plage au bord de la France. Elle prépare ses affaires énervées, elle s'agite, elle s'affaire, elle panique. Depuis le temps qu'elle est paniquée, elle rêve d'un grand amour exotique. Elle a pris un cache-col, un chandail, sa robe jaune un petit peu déchirée, un poisson surgelé, des tenailles, sa valise en carton va craquer. Elle est quand même heureuse d'être...
Un grand merci Bernard Chéhou et Prosper Vanner de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. C'est à Renaud qu'on doit le mot de la fin avec son titre Le Retour de la Pépette. C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovin, Paloma Soria Brown, Léa Sabourin et Thibaut Affringue. À la réalisation, Véronique Villa, à la technique, Alex Tang.
La moitié de la mer, puis elle s'est fait mal à le genou, et tout le pétrole du Finistère a fini dans ses grands cheveux mous.
Demain, l'économie est-elle une science d'autorité? On posera la question à Bernard Guérien et Agnès Labrousse. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. We'll be right back.